Je vous invite à lire quelques versets de l'Écriture qui seront pris dans différents textes. Jésus les appela et dit, il appela les douze et dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner en rançon, sa vie en rançon pour une multitude. Un second texte. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, Jésus se mit à table et dit aux douze, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Un peu plus loin, voici mon commandement, que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Trois versets où Jésus se présente comme modèle. Je continue les lectures et cette fois-ci, nous passons à l'apôtre Paul. Paul écrit « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Dans un autre texte, « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis. » Et enfin, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Voilà, encore trois textes qui nous proposent Jésus comme modèle, comme source d'inspiration, comme personne à imiter. Ça va ? Ça vous va comme programme ? Vous êtes tous partants ? Évidemment, ce modèle a des limites, et la limite la plus évidente, c'est le péché. Jésus vit dans une communion parfaite avec son Père, une communion que rien ne voile. Il vit une sainteté qui nous est inaccessible, mais qui nous indique le chemin. Comment Jésus peut-il être un modèle ? Quand je parle de ça dans des formations, des gens ont un peu de recul parce qu'ils disent « Jésus est trop différent de nous ». C'est pas possible. Et une grande partie du problème vient du fait que nous ne réalisons pas toutes les conséquences de ce que signifie le fait que Jésus est devenu un être humain comme nous. Nous savons que Jésus est Dieu, qui s'est fait humain, et en se faisant humain, il s'est dépouillé de tout ce qui était la différence entre lui et nous. Il s'est dépouillé de sa gloire, de sa majesté, il s'est dépouillé d'un certain nombre de choses pour vivre totalement comme un être humain comme nous. Et j'aimerais qu'on s'arrête un moment là-dessus ce matin, parce que c'est important pour notre foi, notre relation avec lui. Jésus était vraiment un être humain. Tout d'abord, il a un corps comme tous les êtres humains. Il a faim, il a soif, il a besoin de manger et de boire. Il connaît la fatigue, il a besoin de dormir. Il naît d'une femme comme tout homme et il meurt de mauvais traitements subis, comme n'importe quel autre homme l'aurait fait à sa place, avec le même traitement, la même violence. Mais c'est pas tout. Jésus est un homme qui s'est beaucoup servi de son intelligence. Nous avons un problème parce que nous ne savons pas très bien mettre la limite entre Jésus et Dieu et Jésus homme. Mais quand il s'est incarné, il est devenu pleinement homme. Et il a laissé de côté ce qui était de l'ordre de la divinité. Nous avons du mal avec ça parce que nous sommes les héritiers d'une théologie qui est apparue notamment il y a à peu près 150 ans, quand la théologie libérale a commencé à remettre en question le fait que Jésus était Dieu. Par réaction, la théologie orthodoxe, celle des évangéliques en particulier, a mis l'accent sur le fait qu'il était Dieu. Nous sommes encore les héritiers de cet accent-là, qu'il nous faut corriger un petit peu pour accueillir pleinement ce que dit l'Écriture. Jésus est un homme qui s'est servi de son intelligence. Il a appris à lire, à écrire, il a beaucoup lu l'Ancien Testament et l'a souvent cité dans son ministère. Il a discerné dans sa lecture l'amour de l'Ancien Testament, l'amour de Dieu, son œuvre de création et son plan du salut. Il a aussi discerné dans l'Ancien Testament sa vocation personnelle. Quand Jésus se présente et qu'il dit pourquoi il est là, qu'il dit son projet, son ministère, eh bien il le fait à partir du prophète Ésaïe. Nous lisons ça dans Luc 4, versets 18 à 21. Jésus lit ces versets. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et voilà Jésus donc qui, à travers cette lecture, dit son programme. C'est à partir de sa lecture, sa méditation de l'Ancien Testament que Jésus a compris sa vocation, sa mission, et c'est à travers les mots de l'Ancien Testament qu'il communique cela dans la synagogue de Nazareth. Jésus s'est servi d'une intelligence, il savait aussi répondre aux questions pièges de ses adversaires. Par exemple, on lui a posé une question piège sur la femme qui avait épousé 7 frères successivement. Au ciel, de qui serait-elle l'épouse? On lui a posé des questions pièges sur la répudiation. Moïse a dit que... Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pareil pour la femme adultère. Moïse a dit que... Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Jésus savait répondre parce qu'il avait réfléchi. Nous avons tort de penser que Jésus avait une ligne directe que lui seul avait et que les réponses lui venaient toutes seules, sans effort. Nous nous trompons quand nous pensons ça. Jésus avait réfléchi à cette question du péché. Et quand il a dit cette phrase géniale que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre, eh bien, il avait trouvé dans l'Ancien Testament des fondements solides pour une phrase pareille. Par exemple, le fait que l'Ancien Testament dise qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Jésus réfléchissait aussi au problème de son époque. Et notamment à deux problèmes particuliers de son époque, qui étaient les relations entre les Juifs et les Samaritains. C'était pas beaucoup mieux que les relations entre les Juifs et les Palestiniens aujourd'hui. Et la question de l'occupation des Romains. Et quand la Samaritaine lui pose la question de « Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ?» Jésus répond, une phrase absolument extraordinaire, « L'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus arrive à dire, c'est pas du tout une question de lieu. C'est pas une question d'endroit, de bâtiment. C'est bête, c'est inutile, ça n'a pas de sens de se disputer sur un bâtiment. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur quand on adore Dieu. C'est l'état d'esprit que nous avons. Et Dieu cherche des adorateurs, non pas dans tel ou tel endroit, mais des adorateurs qui sont habités par le Saint-Esprit et par le souci de la vérité. Jésus avait réfléchi sur la question de l'occupation par les Romains. Il y a ceux qui disent qu'il faut prendre les armes et éliminer le plus de Romains possible, c'est des zélotes. Il y a ceux qui disent qu'il faut collaborer. C'est les Sadducéens et les Hérodiens. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Encore une phrase où il, au lieu de réfléchir dans le cadre traditionnel comme avec la question du lieu d'adoration, Jésus sort complètement du cadre et il centre les choses sur ce qui est vraiment important. Jésus a beaucoup réfléchi parce qu'il a appris de ses expériences personnelles. Ça va peut-être vous surprendre parce que parfois on présente Jésus comme s'il était arrivé tout fait, mais Jésus a appris. Et le texte qui peut-être symbolise le mieux ça se trouve dans sa rencontre avec un centurion. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, ça serait trop d'honneur pour moi que tu rentres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un « va », il va. À l'autre « viens », il vient. » Et à mon esclave, fait ceci, et il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus, étonné, s'attendait pas à ça, étonné, dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, j'ai trouvé une telle foi. » Jésus a été surpris. Il s'attendait pas, et il a appris quelque chose en rencontrant ce Romain. Je suis assez convaincu que Jésus a appris des tas de choses en rencontrant les autres. Comme nous tous, non ? Nous nous nourrissons de nos rencontres, nous apprenons des uns des autres. Dans Matthieu 15, 28 et suivant, et Jésus a affaire à une femme cananéenne qui l'embête parce que sa fille est malade. Jésus est fatigué, je ne sais plus si c'est dans Matthieu ou dans un autre texte, il s'est caché dans une maison pour être un peu tranquille. Il dit à cette femme, je ne suis pas venu pour toi. Et la femme insiste, et puis à un moment Jésus dit, oh femme, grande est ta foi. Grande est ta foi. Pourtant, c'est une païenne. Hein. Grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et Jésus s'est tellement surpris de voir cette foi qu'il a fait autre chose que ce qu'il avait dit qu'il ferait au départ. Et qu'il l'a donc guéri, la jeune fille. Jésus est un homme qui a réfléchi à sa communication. C'est un prédicateur. Un enseignant. Il a réfléchi à sa communication, il a l'art des formules choc. Aujourd'hui, on dirait des punchlines. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouf, ça c'est envoyé. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, c'est pareil. Et on pourrait dire quasiment que la moitié du serment sur la montagne est fait de phrases choc, où Jésus, en une seule phrase, dit des tas de choses. Jésus a aussi soigné sa communication par les paraboles, un genre littéraire qui parle à tous les humains, construit sur des images, sur des histoires, qui s'adresse pas seulement à l'intelligence, mais qui s'adresse aussi aux émotions et à l'imaginaire. On ne trouve pas vraiment de paraboles dans la littérature de l'époque. Mais Jésus en prononce 41 dans les évangiles. Jésus s'est appuyé sur ses compétences humaines et sur sa sagesse spirituelle, sur la sagesse qu'il cherchait dans sa relation avec Dieu et dans la lecture de l'Écriture, mais pas sur les capacités divines dont il s'était dépouillé. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que sa connaissance est limitée, quand il dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus a un corps et une intelligence, mais il a aussi des émotions. Alors, quelles sont les émotions que Jésus éprouve ? Quelles sont les émotions que Jésus éprouve ? Oui, mais encore, un peu plus précis. Pardon ?
Même mis en colère.
Jésus, il y a un texte où le mot colère est associé à Jésus.
Oui.
C'est dans Marc 3, 4 à 5. C'est pas du tout comme on pense parfois les marchands chassés du temple où le mot colère n'est absolument pas présent. Mais dans Marc 3, 4 à 5, Jésus dit Est-ce qu'il est permis un jour, qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-il possible, a-t-on le droit de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer? La réponse est qu'il faut faire le bien, même quand c'est le sabbat. Mais les autres gardent le silence parce qu'ils sont piégés par la question et préfèrent rien dire. Alors promenant ses regards sur eux avec colère, et navré de les voir si obtus. Un mélange de colère et de déception. Il dit à l'homme, tends la main, et il tendit la main et il fut guéri. La colère, quoi encore?
La tristesse.
La tristesse, ça c'est, on dit souvent ça en premier. À cause de quoi?
Lazare.
À cause de Lazare. Pourtant, c'est pas là où c'est le plus évident. Mais il pleura, effectivement.
Ah oui, il pleura.
Il pleura. Mais je lis dans Marc 14, 33, 34, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il prie dans le jardin. Il commença à éprouver l'effroi et l'angoisse. Et il leur dit, je suis triste à mourir. Donc là, en plus, c'est de la peur, hein,
oui.
De l'angoisse. Une angoisse telle que Jésus balance et qu'il doit se raccrocher au fait de faire la volonté de son Père, parce qu'il est sérieusement tenté de prendre un autre chemin. Vous vous rappelez de ça? Quoi encore? On a tristesse, colère et peur, c'est pas très gai pour l'instant. Hein. Quoi encore?
La compassion.
La compassion. C'est même le mot qui revient le plus souvent dans les évangiles. Voyons-le. Et quand on parle de compassion, ça traduit une expression qui veut dire pris aux tripes, les tripes remuées. Donc c'est pas juste un petit truc comme ça, là, une vague tristesse quand on voit un truc pas cool à la télé, c'est vraiment là. Quelques passages. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. On a trouvé dans la littérature rabbinique, à peu près à l'époque de Jésus, à 100 ans près, des textes où la foule, c'est la populace, vous voyez? Où Jésus, la foule, c'est juste des gens paumés, parce qu'il leur manque un berger pour les conduire. Un autre texte, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Un autre texte, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et ça, c'est l'introduction à la multiplication des pains. Dans Matthieu 20, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrent la vue et le suivirent. Marc 1, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et après Jésus dit, « N'en parle à personne. » Mais lui, il va le dire à tout le monde. Et ça perturbe le ministère de Jésus. Pour ceux qui sont dans le social et qui sont un peu embêtés, il faut toujours vous dire que Jésus aussi s'est fait avoir. Par ses sentiments. Mais voilà. Le fils de la veuve. Jésus voit une mère qui enterre son fils. Et là, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit, parce qu'il est pris aux entrailles, il va ressusciter le fils. Il y en a encore quelques autres, mais on va passer. Il y a encore un autre sentiment. Au moins un, allez. Un truc un mot qu'on utilise chaque fois qu'on loue Dieu. On s'applique à nous, j'entends. Hein. C'est la joie.
Il tressaillit de joie.
Luc 10, 21, à ce moment même, il tressaillit de joie, ou dans ma traduction, il fut transporté d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint. Jésus était épaté, et ce qu'il avait épaté, c'est que Dieu a choisi de se révéler aux petits, et pas aux intelligents, et aux grands. Ça provoque en lui une émotion de joie, très particulière. Comme tous les. Alors, on a parfois une image d'un Jésus plutôt froid avec peu d'émotion. Mais les évangiles nous disent autre chose. En fait, nous pouvons être piégés par le sentiment de faire de Jésus plutôt un point de doctrine, un point central évidemment, plus que de le considérer comme une personne vivante, avec tout ce que ça suppose. Vous êtes piégé par ça. Jésus était un homme qui vivait à fond, qui vivait à fond dans ses émotions, dans ses relations. Et il est important qu'on sente ça. Comme tous les humains, Jésus aussi a été tenté. Qu'est-ce qui était un des axes de la tentation, des récits de tentation, au début de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc? Ça a été « Fais avancer ton ministère » en transformant les pierres en pain, en te faisant, en épatant tout le monde, en te jetant du haut du temple, etc., etc. Sauf que tout ça, Dieu ne lui a pas demandé. Et donc c'était une façon d'inciter Jésus à faire avancer son ministère en sortant de sa dépendance au Père. Nous connaissons aussi évidemment la tentation à Gethsémané de trouver un chemin qui lui épargnera la mort. C'est vraiment important de réaliser cela, que Jésus a été tenté comme nous. C'est important pour notre piété, pour notre relation, pour notre foi, notre relation personnelle avec lui. Car comme dit l'Épître aux Hébreux, qu'on va citer encore à plusieurs reprises, nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses, car il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. En fait, le Nouveau Testament nous présente Jésus comme quelqu'un de très proche de nous, entre autres parce qu'il a vécu des tas de choses comme nous, à commencer par les tentations. Et si on ne tient pas compte de ça, et si on n'utilise pas, entre guillemets, cette ressource de Jésus qui a été soumis à toutes sortes de tentations, alors nous nous privons de quelque chose d'important. Jésus aussi a une vie spirituelle dans laquelle il a besoin de solitude et de prière pour se retrouver avec lui-même et avec Dieu. Il a besoin de prier pour discerner la volonté de Dieu, ici et maintenant. Un texte particulièrement évident là-dessus, c'est le choix des 12 apôtres dans l'évangile de Luc, où il nous est dit, en ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne, il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtre. Voilà. Une nuit a passé dans la prière, en présence de Dieu, avant d'opérer un choix décisif dans son ministère, le choix des 12 apôtres. Pour reprendre un texte que Christian nous a lu, il faut aussi dire que Jésus discerne petit à petit les chemins de sa vocation. Rien ne nous oblige à penser que quand Jésus est arrivé, par exemple à Nazareth au chapitre 4, il savait déjà le déroulement du film. Rien ne nous oblige à le croire. Dans le texte, ce n'est pas dit. Au contraire, à un moment très précis d'ailleurs, dans Matthieu 16, après que Pierre ait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus commence à annoncer qu'il va mourir. Qu'il va être arrêté, qu'il va être battu, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Il va le dire 3 fois, et la première fois, c'est dans Matthieu 16. Comme si, à partir de ce moment-là, il avait eu une révélation nouvelle de la suite de sa vie et de son service. Comme nous, l'obéissance de Jésus à Dieu lui a coûté. Toujours l'Épître aux Hébreux, tout fils qu'il a été, tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Nous croyons que parfois que Jésus flottait au-dessus du sol, pour qu'il n'ait pas trop mal aux pieds, mais pas du tout. Pas du tout. Hébreux toujours, au jour de sa chair, donc au jour où il était présent en Palestine, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé en raison de sa piété. Combat spirituel. Il a cherché avec persévérance dans la prière, la volonté de Dieu, on l'a déjà dit. Il y a encore d'autres textes sur lesquels on pourrait parler, mais qu'on pourrait citer, mais j'insiste pas là-dessus. Je veux reprendre en conclusion quelques éléments. C'est essentiel pour nous de comprendre que Jésus n'a pas vécu ni rempli son ministère par des moyens divins, extra-humains, mais qu'au contraire, il s'est dépouillé des attributs de sa divinité pour vivre comme nous, excepté le péché. Ceci dit, on n'a pas le temps de voir ça, mais le ministère de Jésus s'est construit sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est sa relation avec le Père. Une relation que Jésus a développée dans sa vie de prière et qui s'exprime dans l'Évangile par le mot « Abba ». Une relation qui a été affirmée, proclamée, dans ce moment décisif qui a marqué le début du ministère, à savoir le baptême, puisque au moment du baptême, une voix du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le premier pilier du ministère de Jésus, c'est son enracinement dans son identité de fils par rapport au Père Céleste. Le deuxième pilier, c'est une relation profonde avec le Saint-Esprit. Au moment du baptême, l'Esprit est descendu comme une colombe, vous vous rappelez. Et quand il se présente, il commence par dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction ». D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira, en Actes 10, verset 37-38, verset 38, il dira « Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. » C'est l'onction d'Esprit Saint qui était à la base de sa relation à Dieu et de sa puissance pour faire du bien. Et le troisième pilier, c'est qu'il était clair pour lui qu'il voulait faire la volonté de Dieu en toute occasion. Jésus dit à ses disciples, après avoir parlé avec la Samaritaine, les disciples reviennent, ils ont acheté à manger, et puis ils disent à Jésus, mange. Jésus leur répond quoi ? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Et c'est ce troisième pilier qu'on voit aussi tout à fait dans le moment de crise peut-être le plus grave que Jésus a vécu, à savoir de la prière dans le jardin de Gethsémané, où ce qui lui permet de tenir le coup, c'est de dire non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc là, il avait une ancre ferme où il a pu se tenir quand il y avait la tempête de tous côtés. C'est parce que Jésus a vécu sa vie et son ministère pleinement comme un être humain qu'il peut nous sauver. L'Épître aux Hébreux, toujours, nous dit « Jésus devait devenir en tout point semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Un texte qu'on ne lit pas souvent. Hein. Mais Jésus, en vivant comme un être humain, en vivant comme le nouvel Adam, comme dit l'apôtre Paul, a résisté à la tentation, il est resté fidèle à Dieu, et d'une certaine manière, il a montré que quand Dieu a créé l'être humain, ce n'était pas nécessairement un échec. Et que la chute n'est pas la preuve que Dieu a raté son coup quand il a créé l'être humain. Jésus montre, par a contrario, que l'être humain, l'humanité, est une bonne humanité, à condition qu'elle ne se laisse pas piéger par le diable. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça participe de notre salut. Si Jésus avait été désobéissant à Dieu, il n'aurait pas pu nous sauver. Il n'aurait pas pu nous sauver. Pourquoi il n'est pas venu 3 minutes avant la croix ? Il est venu 3 ans. Il a eu un ministère qui a duré 3 ans avant, où il a manifesté la fidélité à Dieu et le fait que l'humanité, que lui a incarné dans sa perfection, pouvait être une humanité qui n'est pas nécessaire, qui ne devait pas nécessairement tomber dans le péché et dans la révolte. Donc, c'est parce que Jésus a vécu sa vie et son ministère pleinement comme un être humain qu'il peut nous sauver. Deuxièmement, qu'il peut être un modèle pour nous. Troisièmement, qu'il peut être un soutien pour nous. Qu'il peut être un soutien pour nous. Et qu'il nous aide et qu'il nous éclaire dans nos difficultés. Un dernier texte de l'Épître aux Hébreux, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Tout grand prêtre pris parmi les humains est institué pour les humains dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse humaine, pas celle du péché, mais de humaine, et c'est ce que Jésus a été aussi pour nous. Amen.
Amen.